du lundi au vendredi, de 9h à 10h, on en parle sur RTS La Première.
Ce dimanche 21 mai a lieu la journée nationale de l'entraide en Suisse. Mathieu, en quelques mots, l'entraide, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on?
Alors l'entraide, ou l'entraide autogérée, comme on l'appelle souvent, c'est un peu plus que la définition commune du dictionnaire, à savoir se soutenir les uns les autres ou se donner un petit coup de pouce. L'exemple historique et bien connu, c'est les alcooliques anonymes, un groupe de personnes concernées par un problème, c'est souvent un problème de santé, qui se réunit pour partager des expériences, soutenir les uns les autres et chercher des solutions pratiques ensemble.
Voilà, les alcooliques anonymes donc comme modèle, organisation fondée aux États-Unis il y a presque 100 ans. Ça veut dire que les alcooliques anonymes ont quand même fait des émules, qu'on trouve maintenant des groupes d'entraide sur des thèmes beaucoup plus variés.
Alors quelques chiffres dans notre pays, Philippe. Selon Info Entraide Suisse, l'organisation fêtière, il existe aujourd'hui 2800 groupes d'entraide en activité en Suisse, c'est donc beaucoup. Ces groupes réunissent en moyenne une quinzaine de membres, ça fait 43 000 personnes qui fréquentent régulièrement au moins un groupe d'entraide. Il y a de nombreux thèmes, trois quarts d'entre eux, donc la majorité quand même, ont un lien plus ou moins direct avec la santé, mais il y a aussi des sujets de société plus larges autour des questions de genre, par exemple, ou aussi des thèmes comme comment élever un enfant seul ou se sortir d'une situation difficile comme un divorce ou une période de chômage.
Mathieu, vous évoquez la fêtière suisse, ça sous-entend l'existence d'organisations cantonales ou régionales. Ben, ça tombe bien, on en a une sous la main, enfin plutôt sa représentante devant le micro. Bonjour Sylviane Felet.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission, vous êtes coordinatrice d'Info Entraide Vaud. Alors on le disait, Mathieu le disait, 2800 groupes d'entraide en activité dans notre pays, c'est impressionnant. Concrètement, comment fonctionne un groupe d'entraide? Est-ce qu'il y a des habitudes, des particularités, éventuellement des règles qui régissent ces groupes?
La première chose que je peux dire sur le fonctionnement type d'un groupe d'entraide autogéré, c'est que toutes les personnes qui se rencontrent sont concernées par le même sujet, la même thématique, et se réunissent pour chercher à se soutenir ou à développer de nouvelles ressources ou échanger des informations, par exemple. Et puis ce fonctionnement est autogéré parce que c'est le groupe lui-même qui décide comment il va fonctionner et qu'est-ce qu'il va faire pour atteindre ses objectifs. Ça peut être des activités, quelque chose en lien avec l'art ou de l'art-thérapie ou des sorties, convivial, ou simplement utiliser le groupe comme un peu question de résonance, c'est-à-dire on partage ce qu'on vit et on partage aussi en résonance avec chacun des membres du groupe.
Et on entend souvent parler de groupe de parole, donc là ça va plus loin que ça.
Ça peut aller plus loin, chaque groupe va lui donner, moi je dis souvent, la couleur qu'il veut. En fait, il va faire ce qu'il a envie de faire et c'est le groupe lui-même qui va décider ce qu'il veut en faire.
Alors Sylviane Felet, pour donner la couleur nécessaire à un groupe, il y a un petit passage quasi obligé, en tout cas traditionnel, la rédaction d'une charte.
Oui, c'est ce qu'on recommande en tout cas fortement à tous les groupes. Tout le monde ne le fait pas. Mais cette charte, c'est un peu une convention de groupe. Elle va permettre à l'ensemble du groupe de décider comment il va fonctionner. La fréquence, la durée de leur rencontre, le lieu de leur rencontre, comment ils décident de communiquer entre eux. Quelques règles de base sont souvent très importantes pour éviter des dérives, des clashs ou des tensions. Et puis, vers quels objectifs ils veulent tendre aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces rencontres?
Alors, ce qui est quand même frappant, et c'est cette idée d'autogestion. Hein. Le groupe réunit des gens a priori égaux entre eux. Il n'y a pas d'autorité scientifique, il n'y a pas de chef. Comment est-ce que vous parlez de tension, mais comment est-ce qu'au fond on évite la zizanie? Ces gens ne se connaissent pas, tout peut arriver.
Alors, ils prennent le temps un peu de faire connaissance. Hein. Les premières réunions, quand le groupe commence à se lancer et créer, ils vont prendre quelques réunions pour un peu faire connaissance, créer du lien, voir quelles sont les affinités qu'ils ont et voir s'ils peuvent se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent en faire dans ce groupe. Donc, les zizanies, un groupe, je dis souvent, ça respire un groupe. Hein. Ça va, ça vient, il peut y avoir des tensions, des désaccords. Il suffit qu'il y ait une personnalité un peu plus affirmée qui veut peut-être prendre le lead dans son groupe et ça peut poser des problème. Donc, on revient à la charte. Qu'est-ce qu'on a écrit comme règle et on essaie de s'y coller.
Sylviane Felet, comment on fait aussi pour éviter que le groupe devienne un déversoir à lamentation, que tout le monde se lamente et puis que finalement on n'avance pas?
Alors, il faut questionner, chacun doit se questionner sur ses motivations quand il vient dans un groupe. S'il vient uniquement pour ça, ça va pas lui apporter grand-chose parce qu'au final, il va jamais aller mieux. Et donc, chaque personne qui rentre dans un groupe va devoir réfléchir lui-même sur ses intentions et qu'est-ce qu'il veut. En général, c'est qu'il veut un peu se prendre en main, faire quelque chose pour lui aller mieux et peut-être aussi profiter d'aider les autres.
Alors, Sylviane Follet, ça peut aller dans les deux sens. On va dans un groupe pour apprendre quelque chose, pour bénéficier de l'expérience des autres, mais aussi parce qu'on a quelque chose à donner. Ça peut être l'occasion, après une expérience malheureuse, un accident, un problème de santé, de finalement faire quelque chose de cet événement malheureux, le transformer un peu.
Oui, je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle souvent, notamment dans la santé mentale, les chemins de rétablissement ou la résilience des uns et des autres. Oui, beaucoup de gens ont envie de redonner ce qu'ils ont reçu ou ce qu'ils ont pu acquérir comme compétences ou comme ressources.
Oui. Vous-même, vous avez fait une expérience, alors vous êtes coordinatrice aujourd'hui, mais vous avez fait une expérience dans un groupe d'entraide. Sauf erreur, le groupe s'appelait « Donner du sens à sa vie ». Vous nous racontez un peu comment ça marchait pour vous?
Alors, le groupe s'appelle « Redonner du sens ». J'ai accompagné la création de ce groupe avec les deux personnes qui voulaient le lancer et qui faisaient partie d'un projet plus large. Ils sont aussi en train d'écrire un livre avec des outils, des guides pour les personnes qui ont traversé une période difficile, un burn-out ou autre chose. Et puis, moi, ça fait écho, une résonance en moi, parce que en 2019, quand j'ai changé de travail, quand j'ai recommencé à je me suis remise sur le marché de l'emploi parce que je souhaitais de redonner du sens à ma vie. Donc voilà, l'écho il est là, la résonance elle est là. Et puis je trouve très enrichissant et ça alimente ma propre réflexion aussi.
On parle des groupes d'entraide autogérés ce matin avec Sylviane Follet, coordinatrice d'Info Entraide Vaud à la faveur de cette journée nationale donc qui a lieu ce dimanche 21 mai, hein, journée nationale de l'entraide. Mathieu le disait, 2800 groupes en Suisse. Comment je fais si je suis intéressé à rejoindre un groupe, à trouver une thématique? Comment savoir si un groupe existe dans la thématique qui m'intéresse?
Alors, il y a beaucoup de moyens. La page web d'Info Entraide Suisse a un moteur de recherche. Nous alimentons cette base de données chacun dans notre région, dans nos cantons. Il y a quand même 22 centres et antennes dans la Suisse. En Suisse romande, il y a Jura, Neuchâtel, Genève, Vaud et Bienne pour la partie francophone. C'est le même moteur de recherche. Donc, chacun de ces cantons alimente cette base de données, on essaie d'explorer tout ce qui existe, on essaie de répertorier tout ce qu'on peut sur ces groupes et donc avec des mots-clés, parfois pas toujours évident, ça dépend comment on le formule, on peut trouver si le groupe existe dans sa région. Et sinon, si c'est un peu trop ardu de faire cette recherche, les gens peuvent nous appeler, on a toujours nos numéros de téléphone affichés ou nous écrire par mail.
Et donc vous pouvez nous renseigner?
Oui.
Directement.
Est-ce que quand vous répertoriez ces groupes, il y a une vérification des qualifications des personnes qui les animent? Je ne sais pas si c'est par exemple un groupe de patients, de parents d'enfants malades, parce qu'il peut y avoir parfois des fausses informations, des mauvais conseils qui sont donnés. C'est aussi peut-être le danger qu'on s'est autogéré. Est-ce qu'il peut y avoir ce risque?
J'imagine que oui. Mais en fait, quand on répertorie un groupe, on va prendre contact avec la personne de contact qui est la répondante du groupe, parce qu'il faut bien une personne répondante du groupe pour pouvoir admettre un nouveau membre ou communiquer avec nous. On découvre un groupe ou ce groupe nous informe qu'il est créé, qu'il aimerait être visible. Eh bien, on se met en contact avec cette personne et on a un échange assez construit là autour. Et puis, juste peut-être pour compléter l'information de tout à l'heure, nous avons un formulaire de coordonnées et qui nous autorise à communiquer les coordonnées de ces personnes répondantes sur uniquement les données qu'elle choisit de communiquer à l'extérieur. Donc, je peux peut-être des fois donner le numéro de téléphone ou uniquement le mail ou alors juste le prénom, son mail, etc. Mais on a cet échange-là, donc on vérifie quelle est la nature de ce groupe, quelles sont ses intentions et comment il fonctionne.
Alors, Sylviane Follet, on récapitule donc le site web avec un moteur de recherche, le numéro de téléphone, vous répondez directement aux gens. Parmi les gens qui nous écoutent, il y a peut-être aussi des gens qui se disent « Moi, j'ai une compétence à partager, il m'est arrivé quelque chose, j'aimerais en faire profiter les autres. » Ils peuvent s'adresser à vous aussi?
Oui, bien sûr, ils peuvent nous appeler, on échange sur ses intentions, qu'est-ce qu'ils souhaitent apporter, mais est-ce qu'ils ne souhaitent pas aussi peut-être encore recevoir quelque chose et profiter de ces échanges? Parce qu'arriver dans un groupe juste pour aller amener amener quelque chose, ça fait un peu moi je sais tout et je viens vous amener ma petite science personnelle. Mais non, c'est pas l'objectif. Oui. On reste dans le soutien mutuel, de partage de ressources entre toutes ces personnes. Donc ce côté unilatéral d'intention, je me méfie un peu, donc moi j'essaie toujours de le clarifier.
Et côté financier, Sylviane Fellet, est-ce qu'il faut payer quelque chose? Il y a une cotisation pour faire partie de ces groupes?
Normalement, c'est gratuit. La seule participation financière que pourrait vivre le groupe, c'est peut-être pour la location d'une salle. Parce que quand on se réunit une fois par semaine, tous les 15 jours, ou une fois par mois, ou tous les ou 4 fois par an, il faut trouver une salle pour ça. Dans le canton de Vaud et à Lausanne, beaucoup de groupes viennent occuper les salles de bénévoles à Vaud. C'est là que je travaille. Elles sont gratuites pour ces groupes-là. Mais c'est pas le cas partout. Dans les quatre coins du canton, il y a bien d'autres situations nécessaires. Soit ils trouvent des arrangements, soit alors ils doivent se cotiser pour payer une salle. Mais en général, c'est gratuit.
Alors, les principes de l'entraide remontent à une centaine d'années. On a parlé des alcooliques anonymes. 1930-1935, c'était la grande époque de ce qu'on appelait les mouvements de tempérance, souvent liés à des organisations morales ou religieuses. Est-ce qu'il reste quelque chose de ça aujourd'hui ou c'est terminé?
C'est vrai que 1930, vous avez dit?
Oui, c'est ce que je pensais en tout cas.
Oui, 1930, c'est plutôt l'année où les alcooliques anonymes sont nés aux États-Unis et ensuite se sont exportés. On parle plutôt du tournant du 19-20e siècle où il y a ces grands mouvements qui sont nés, notamment des associations de personnes handicapées, etc.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il reste quelque chose
de ces
origines?
Oui, beaucoup d'associations sont nées au fil du temps concernant des maladies ou d'autres problématiques de la société. Et ces associations ou organisations, parce que parfois c'est des fondations ou des sociétés, elles chapeautent, elles soutiennent des groupes d'entraide. Donc ça a évolué dans les années.
Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est laïque ou c'est lié à des mouvements religieux ou
non, c'est, normalement ça doit être apostolique, apolitique, tout, c'est vraiment, vraiment comme ça.
Pour conclure, Sylviane Fellet, donc dimanche, journée nationale de l'entraide en Suisse, et puis toute la semaine prochaine, plusieurs journées d'action. Le thème cette année, c'est se rapprocher du système de santé officiel, notamment les hôpitaux. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel rapprochement?
On attend de la part des professionnels de la santé qu'ils soient mieux informés de l'existence des groupes d'entraide.
Et vous en savez quelque chose? Vous étiez vous-même infirmière.
Oui, effectivement. J'ai travaillé une trentaine d'années dans les soins et j'avoue humblement que je savais pas l'ampleur j'étais ignorante par rapport aux groupes d'entraide. Je connaissais les bases, les alcooliques anonymes et quelques autres groupes. Mais j'en mesure maintenant vraiment toute l'importance et la complémentarité avec ce système de santé. C'est ça qu'on veut renforcer avec les hôpitaux. Ça contribue vraiment à la prévention et la promotion de la santé.
Sylviane Fellet, coordinatrice de l'antenne Info Entraide Vaud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle l'adresse de la fêtière nationale de l'entraide, donc infoentraidesuisse.ch, tout en un mot, infoentraidesuisse. Le lien se trouve d'ailleurs sur notre propre page web et toutes les informations pratiques s'y trouvent, notamment les téléphones, les courriels de chaque canton.